Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est par ces mots que l'apôtre Paul cherchait à éveiller la vigilance de Timothée, son jeune converti. Car, dit-il, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, blasphémateurs, ingrats, irreligieux, intempérants, cruels, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Puis il ajoute, éloigne-toi de ces hommes-là. Ce catalogue des péchés n'appelle pas de remarques nombreuses. On peut le rapprocher des autres listes semblables dressées par le même apôtre dans sa première lettre à Timothée et dans sa lettre aux Romains. Il y a plus de 19 siècles que ce réquisitoire a été prononcé, brossant un tableau énergique et réaliste de la mentalité du premier siècle de notre ère. Pourtant, cette accusation n'a pas perdu de sa virulence. Aucun de ces termes n'a vieilli. L'homme n'a pas changé. Il est toujours demeuré cette chair agitée et dominée par des passions de toutes sortes. Mais dans cet avertissement, on sent que l'auteur veut parler d'une prolifération extraordinaire de ces vices, qui constitue un signe des derniers jours. Que sont au juste ces derniers jours? Il semble bien qu'ils sont déjà commencés au moment où Paul écrit, puisqu'il recommande à Timothée de s'éloigner de ces hommes-là. Ce sont évidemment les derniers jours de l'humanité, la fin des temps. L'Épître aux Hébreux nous précise que Jésus apparut à la fin des siècles pour abolir le péché. Pierre déclare que Jésus est l'agneau annoncé par les prophètes et manifesté à la fin des temps. Parallèlement, Paul dit à ses contemporains, « Nous sommes parvenus à la fin des siècles. » Puisque nous sommes dans les derniers jours, il y aura donc un dernier jour. Jésus en a assez parlé de ce dernier jour. Ce sera le jour de la résurrection. Ce sera aussi le jour du jugement. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ainsi parlait le Christ lorsqu'il était encore sur terre. Malgré cette déclaration qui a été formulée pour décourager formellement toute tentative de spéculation et de calcul, certains prétendus prophètes modernes ont essayé et essaient encore d'avancer non seulement l'année, mais aussi le jour qui sera le dernier. Il est difficile de réprimer un sentiment d'indignation contre un tel étalage d'orgueil insensé qui désire percer ce que Dieu veut tenir caché. Cette fin des siècles dure donc depuis près de 2000 ans. Chaque jour nous rapproche de ce jour ultime et inévitable que les Écritures appellent le jour du Seigneur. Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. C'est l'apôtre Pierre qui vient de nous rappeler qu'il n'y a pas de commune mesure entre l'éternité de Dieu pour qui le temps n'existe pas et nos courtes années qui nous incitent à l'impatience et à la précipitation. Puis l'apôtre, qui sait par une révélation de Dieu que sa mort violente est toute proche, ajoute « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Il vient de préciser en effet que, de même que le monde du temps de Noé périt submergé par l'eau, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Viennent ensuite ces avertissements, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche, et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. À ce point, pour résumer nos remarques et tous ces textes que nous avons relevés, nous pouvons dire qu'avec la venue du Christ, l'histoire de l'humanité est entrée dans sa dernière phase. Nous sommes parvenus à la fin des siècles. Mais ce que nous avons surtout voulu souligner, c'est ce que nous pouvons appeler l'état d'urgence qui est décrété par l'Évangile. Lisez les quatre évangiles ou lisez les épîtres, vous trouvez partout des exhortations à la vigilance, des appels à la foi, à la fermeté, à la fidélité, à la résistance. D'une part parce que le jour du Seigneur est proche, et d'autre part parce que les forces du mal semblent vouloir se déchaîner en un ultime effort contre les vrais croyants. Le mal aux mille visages que les apôtres s'efforcent de démasquer. Désormais, Dieu appelle tous les hommes, sans exception, au repentir, car tous ont péché, tous ont participé au mal. Exagération de prédicateur qui cherche à meubler son sermon, diront certains. Mais nous ne faisons qu'emprunter le ton véhément de l'Évangile. Il suffit de regarder autour de nous, de secouer notre torpeur qui nous insensibilise au péché et au scandale, pour se faire une idée de la puissance effrayante du péché qui peut régner à la fois sur le corps et l'esprit. La haine, la vengeance, la violence, l'égoïsme, la guerre, la corruption qui s'infiltre partout, le racisme, l'injustice sociale sous toutes ses formes, le mensonge, les compromis scandaleux, et nous pourrions, hélas, continuer jusqu'au-delà du temps qui nous est réservé. Où est le croyant dans cette jungle? Où est le chrétien? Comment doit-il, comment peut-il se comporter? On parle beaucoup en ces temps troublés de la difficulté d'être chrétien, et pour cause. C'est pourquoi le chrétien digne de ce nom doit prendre au sérieux les cris d'alarme que lui lance la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Pierre a écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Ce langage fera peut-être sourire les moqueurs qui le jugeront puéril et naïf, mais qu'importe. C'est là encore un obstacle à vaincre, et il tombe vite lorsqu'on se souvient que celui qui a su naïvement parler des lys des champs et des oiseaux du ciel a aussi glorieusement défié la mort en sortant du tombeau. Ce n'est pas pour rien que Paul a écrit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit « Prenez garde, veillez et priez. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Chaque croyant doit prendre ses exhortations au sérieux. Chaque croyant doit se garder de sous-estimer les forces qui peuvent le faire déchoir de sa foi, lui faire perdre son espérance, sa paix et son salut. C'est la raison d'être même de tous ces appels à la vigilance, et c'est pourquoi nous les rappelons ici. Mais comment pouvons-nous veiller? Comment est-il possible de toujours demeurer sur ses gardes? Est-ce là une disposition compatible avec les conditions de notre vie moderne? Est-ce même possible? En fait, ce que Dieu attend de nous, ses créatures, c'est que nous reconnaissions que sans lui, nous ne pouvons rien faire, que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. L'homme qui prétend pouvoir compter sur lui-même, sur ses qualités et sa moralité naturelle pour échapper aux influences mauvaises est perdu d'avance. Il est écrit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé ». Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est la voie de la mort. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Ces trois textes parmi des dizaines d'autres insistent sur la nécessité vitale de fonder sa vie sur la volonté de Dieu et de compter sur son secours. Au reste, dira l'apôtre Paul, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ici encore, le lutteur infatigable qu'était l'apôtre attire l'attention de ses lecteurs sur la présence permanente du danger et la puissance de l'adversaire qu'il est loin de sous-estimer. « Fortifiez-vous afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Ce sont les temps difficiles de la fin des siècles. » Celui qui n'est pas armé finira par être envahi et emporté par l'égoïsme, par les assauts du doute, de l'incroyance, du matérialisme et de l'immoralité. C'est pourquoi l'apôtre Paul énumère les armes offensives et défensives dont tout chrétien doit se munir. Il parle du bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est effrayant de constater combien sont rares aujourd'hui ceux qui n'ont pas peur de dire « je crois ». Je ne veux pas parler de cette simple croyance en la réalité d'un Dieu créateur, mais de cette foi vivante et active en Jésus-Christ. Je relisais récemment un chapitre de « La guerre du feu » de Rosny Henné, où l'homme préhistorique est là fasciné devant le feu qu'il vient de découvrir. Il constate que, comme aux bêtes, il lui faut une proie. Il se nourrit de branches, d'herbes sèches, de graisse. Il s'accroît. Chaque feu donne naissance à d'autres feux. Chaque feu peut mourir. Il décroît lorsqu'on le prive de nourriture. Il se fait petit comme une abeille, comme une mouche. Et cependant, il pourra renaître le long d'un brin d'herbe, redevenir vaste comme un marécage. Sa présence est délicieuse. Elle dissipe la cruauté des nuits froides, repose des fatigues et rend redoutable la faiblesse des hommes. En lisant ce texte, j'ai immédiatement pensé à ce feu qu'est la foi et qui se meurt en ce moment, parce qu'il n'est pas nourri. Dans beaucoup de vies, ce n'est plus qu'une lueur, une rougeur imperceptible, mais qui possède quand même la puissance de devenir un embrasement. Il suffit de lui rendre la nourriture dont il a besoin pour qu'il renaisse, pour qu'il grandisse, pour qu'il réchauffe, qu'il dissipe la cruauté des jours mauvais et rende forte la faiblesse des hommes. L'apôtre Paul a dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole, les saintes écritures sont la source de la vraie foi, ainsi que sa nourriture. Aucun autre aliment ne convient à la foi comme la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit que l'homme doit vivre de toute parole que Dieu a donnée? Mais combien se nourrissent-il d'elle? Est-il surprenant que la foi des hommes s'amenuise, s'anémie, se dessèche et disparaisse? Est-il surprenant que des hommes perdent la foi comme ils perdent leur portefeuille? Après avoir averti Timothée, comme nous l'avons vu au début de notre étude, l'apôtre Paul lui dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Paul savait bien qu'une foi dont les racines puisent la substance et la vie dans la Bible même est une garantie d'équilibre, de plénitude et de salut en face d'un monde désordonné, désorienté, déséquilibré, qui accumule pourtant les connaissances et qui se condamne à la folie en excluant Dieu de son immense savoir. Il est une autre force à la disposition du croyant, un élément vital de sa vie et de son développement spirituel, c'est la prière. Veillez à cela avec une entière persévérance, dit l'apôtre Paul. Et Jésus recommande à ses disciples de prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus non plus ne sous-estime pas les forces du mal. Il les connaît mieux que quiconque, c'est pourquoi il exhorte à la prière, car elle est une force, une élévation de l'âme, un refuge, un apaisement, un témoignage de confiance et de soumission à Dieu. Jacques a résumé ce rôle de la prière en quelques mots. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dans cette perspective, toute la vie peut et doit être une prière en ce qu'elle se soumet et qu'elle se rend à tout moment disponible à la volonté de Dieu. Et comme j'ai tous les jours l'occasion de faire la volonté de Dieu ou de m'y dérober, ma foi est active, elle est agissante et elle porte du fruit. C'est d'ailleurs là une de ses caractéristiques indispensables pour qu'elle soit acceptée de Dieu. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, a dit Jésus. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Dans cet avertissement, nous retrouvons l'état d'urgence que nous avons souligné maintes fois. Ayons la sagesse élémentaire de le prendre au sérieux. Que la parole de Dieu soit notre pain de vie quotidien. Que la prière soit notre respiration spirituelle. Et notre vie, l'expression d'une foi agissante au service de Dieu.